parmi vous ce matin. En quelques éléments peut-être de présentation. Alors, ça marche comme ça. Je ne sais pas. Voilà. Donc on représente une église qui est en train d'essaimer dans la vallée de l'Ozon. Vallée de l'Ozon, Corbas, Saint-Symphorien d'Ozon. Pour le moment, on est à Corbas, près du marché Gare. On est dans un restaurant. Puisqu'on était groupe de maisons issus de l'essaimage de Saint-Priest, et puis on est plus de 50 aujourd'hui, donc les maisons deviennent un peu étroites. Merci de continuer à prier pour nous, comme nous prions pour vous, on fait partie de la même famille. Catherine est donc auxiliaire de vie, elle accompagne les personnes âgées qui restent à domicile. Là, pour le coup, la CAF se décharge un petit peu sur les familles, je ferme la parenthèse, et pour ma part, j'accompagne des entreprises et des sportifs sur le leadership. Je suis dans le monde du rugby. Je voudrais ce matin qu'on puisse ensemble cheminer dans un livre de l'Ancien Testament, le livre de Josué. Et je vais vous proposer la lecture de tout le chapitre 2. La lecture est longue, mais on va épuiser toute notre matière. On va s'intéresser à une jeune femme, moi qui m'a interpellé dans mes lectures ces derniers temps, qui s'appelle Rahab. Alors je vous laisse choisir, c'est pas parce que le texte est projeté qu'on va pas le chercher sur nos bibles, sur nos portables, sur nos tablettes. Je vous laisse choisir le support qui vous va bien pour qu'on puisse être synchronisés ensemble dans la lecture de la parole. Josué, chapitre 2. C'est bon pour vous ? Et Josué, fils de Noun, envoya secrètement de Sittim deux espions disant « Allez, voyez le pays et Jéricho. » Et ils s'en allèrent et vinrent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab, et y couchèrent. Et on parla au roi de Jéricho disant « Voici des hommes d'entre les fils d'Israël sont venus ici cette nuit pour examiner le pays. » Et le roi de Jéricho envoya vers Rahab disant « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car ils sont venus pour examiner tout le pays. » Et la femme prit les deux hommes et les cacha. Et elle dit, « Il est vrai, les hommes sont venus chez moi, et je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte allait être fermée dans les ténèbres, les hommes sont sortis. Je ne sais pas où ces hommes sont allés. Poursuivez-les en hâte, car vous les atteindrez. » Or, elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées pour elle sur le toit. Et les hommes les poursuivirent par le chemin du Jourdain jusqu'au gué. Après que ceux qui les poursuivèrent fussent sortis, on ferma la porte. Et avant qu'ils se couchassent, elle monta vers les hommes sur le toit et leur dit, « Je sais que l'Éternel vous a donné le pays, et que la terreur de votre nom est tombée sur nous, et que tous les habitants du pays se fondent devant vous, car nous avons entendu comment l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer Rouge devant vous, lorsque vous sortiez d'Égypte, et que vous avez fait aux deux rois des Amoréens qui étaient au-delà du Jourdain, à Sion et à Og, que vous avez entièrement détruits. Nous l'avons entendu et notre cœur s'est fondu, et le courage d'aucun homme ne se soutient plus devant vous, car l'Éternel, votre Dieu, est Dieu dans les lieux cieux très hauts et sur la terre en bas. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que puisque j'ai usé de bonté envers vous, vous aussi vous userez de bonté envers la maison de mon père, et vous me donnerez un signe certain que vous laisserez vivre mon père et ma mère et mes frères et mes sœurs et tous ceux qui sont à eux, et que vous sauverez nos âmes de la mort. » Je poursuis. Et les hommes lui dirent, « Nos vies payeront pour vous, si vous ne divulguez pas notre affaire. Et il arrivera que lorsque l'Éternel nous aura donné le pays, nous userons de bonté et de vérité envers toi. » Et elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car sa maison était sur la muraille du rempart, et elle habitait sur le rempart. Et elle leur dit, « Allez à la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent, et cachez-vous là 3 jours. » jusqu'à ce que ceux qui vous poursuivent soient de retour. Et après, vous irez votre chemin. » Et les hommes lui dirent, « Nous serons quittes de ce serment que tu nous as fait prêter. Voici, nous allons entrer dans le pays. Tu attacheras ce cordon de fil écarlate à la fenêtre par lequel tu nous as fait descendre, et tu rassembleras auprès de toi dans la maison ton père et ta mère, et tes frères, et toute ta maison de ton père. Et il arrivera que quiconque sortira hors des portes de ta maison, son sang sera sur sa tête, et nous serons quittes. Mais quiconque sera avec toi dans la maison, son sang sera sur notre tête si on met la main sur lui. Et si tu divulgues notre affaire, nous serons quittes du serment que tu nous as fait prêter. » Et elle dit, « Qu'il en soit selon vos paroles. » Et elle les renvoya, et ils s'en allèrent, et elle attacha le cordon d'écarlate à la fenêtre. Et ils s'en allèrent et vinrent à la montagne, et demeurèrent là 3 jours jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient fussent de retour. Et ceux qui les poursuivaient cherchèrent par tout le chemin, et ils ne les trouvèrent pas. Et les deux hommes s'en retournèrent et descendirent de la montagne et passèrent et vers Josué, fils de Noun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Et ils dirent à Josué, « Oui, l'Éternel a livré tout le pays en nos mains, et aussi tous les habitants du pays se fondent devant nous. » La lecture est un peu longue, mais cette histoire valait le coup d'être entendue dans sa totalité. Je vais y revenir. Alors, ce matin, je voudrais vous parler en trois parties. Tout d'abord, ce que j'appellerais la thèse, on va s'intéresser au courage de Rahab. Et puis après, dans un deuxième temps, on regardera la dimension de la foi. Et puis ensuite, troisième partie, la synthèse, le courage et la foi de cette femme. Alors, on va d'abord se rappeler un petit peu un plan de contexte que le peuple d'Israël a tourné 40 ans dans le désert. Vous savez, le désert, cette faculté où le Seigneur envoie ses enfants régresser jusqu'à ce qu'ils ne sachent plus rien faire. Et à ce moment-là, il leur dit, t'es apte pour mon service. Moïse est mort, il n'est pas rentré, c'est Josué qui est en train de conduire son peuple. Le peuple d'Israël est un peuple de migrants. Ah, voilà un mot qui est actuel. Voilà un mot qui sonne à nos oreilles et dont l'actualité nous demande aujourd'hui de réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Moïse est mort, l'assemblée est conduite par ce jeune leader, et ils vont déposséder le pays des habitants qui l'habitent. C'est la promesse, c'est ce qui est indiqué. Alors ce que je vous propose ce matin, c'est qu'on puisse regarder ce livre à la fois sous l'angle historique. Effectivement, il y a ce pays de Canaan qui a un sens pour les Hébreux, mais qui a un sens aussi pour nous, chrétiens. Notre pays de Canaan aussi, c'est cette vie éternelle, qui n'est pas que devant nous, qui est en train d'être acquise là, par notre foi, par notre travail, par notre engagement. Et puis, deux choses, on va là aussi comparer pour le peuple d'Israël. Ils rentrent dans ce pays et vont devoir livrer des batailles avec des tribus qui n'étaient pas très fédérées, qui étaient toutes hostiles. Et si je fais le parallèle aujourd'hui, on parlera de ce combat spirituel que nous devons gagner nous aussi sur le chemin de cette vie vers l'éternité. On a vu qu'à la fin du chapitre 1, c'était juste avant notre lecture, Josué nous appelle à suivre Christ. Il nous appelle à croire au pays promis et à l'éternité sans limite. Et il nous appelle en quelque sorte à développer des qualités morales pour être ceux qui vont rentrer dans le pays de Canaan. Je vous propose au verset 2 qu'on revienne. Et on parla au roi de Jéricho disant, voici des hommes d'entre les fils d'Israël sont venus ici cette nuit pour examiner le pays. Il sait que les hommes sont entrés. Et pourquoi s'adresse-t-il à Rahab? Eh bien parce qu'elle est sur le chemin, sans doute la première maison sur les remparts, directement devant la porte. Qu'est-ce qui se passe pour Rahab? Il va y avoir 4 prises de risque. Premier risque, elle accueille les espions. On va voir qu'il va y avoir une montée graduelle dans cette prise de risque que va faire Rahab. Elle les accueille. Mais pas seulement cela. Elle les cache. C'est-à-dire qu'elle est en train de les faire stationner dans ses maisons. Et pourquoi est-ce qu'elle les cache? Parce que arrivent les soldats. Troisième risque de Rahab. Elle les fait s'échapper. Non contente de les avoir soustraits à la force militaire, elle leur permet de s'échapper. Alors en termes d'image, on se souvient de quelques autres hommes qui se sont échappés à partir d'une corde le long d'une muraille. Hein. Si on veut aussi aller chercher d'autres symboles, je n'y rentrerai pas ce matin. Et puis, le quatrième risque que prend notre sœur, elle ment au roi. Et là, ce risque, c'est mieux comme ça. Et là, ce risque, pour cette époque, est un risque mortel. En fait, si on regarde cette graduation, accueillir, cacher, laisser s'échapper, en montant au roi, elle commet un point de non-retour. J'aimerais qu'on se transpose dans notre époque contemporaine. Accueillir, cacher, laisser s'échapper, mentir. Oh, il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Je suis allé au Chambon-sur-Lignon. Chambon-sur-Lignon, c'est écrit sur une stèle souvenir. les souvenirs du juste resteront à toujours. Regardez ce qui est encadré. Faisant bloc contre les crimes, ont, au péril de leur vie sous l'occupation, caché, protégé, sauvé par milliers tous les persécutés, les Juifs réfugiés au Chambon-sur-Lignon. On est aussi dans cette même suite, dans ce même engagement. Mes amis, suivre le maître, ça coûte. On est dans une époque assez aseptisée, où on veut tout tout de suite, Google nous l'a dit, sans attendre, sans souffrir, sans effort, sans grossir. C'est l'époque des sangs. Notre sœur a pris un risque qui va lui être imputé à vie. J'extrapole encore, je pense à ces migrants. Alors, on a des tas de discours, on entend, y compris, mais il y a des gens qui ne sont pas des migrants, mais. Mais je crois qu'on est interpellé en tant que chrétien aujourd'hui. Ouais. Accueillir, cacher, laisser s'échapper, mentir. On va continuer. Cette sœur Rahab, en fait, elle a, suivant que vous choisissez votre camp, soit c'est une collabo, soit c'est une résistante. En l'occurrence, pour son peuple, dans cette muraille, dans ses remparts, si elle avait été arrêtée, c'était collaboratrice. Je ne sais pas si on lui aurait rasé la tête, mais je sais en tout cas qu'elle n'aurait pas survécu. N'empêche qu'elle a pris ce risque. Courage, on va dire. Oui, mais cette notion du courage, elle a une limite. Derrière ce courage, il y a une motivation. Cette femme est une motivée. Elle est motivée par quoi? On voit ça au verset 8. Et avant qu'ils se couchassent, elle monta vers les hommes sur leur toit et leur dit, « Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. » Vous rendez compte de cette affirmation? Elle sait. Ce n'est pas le mot « je ressens ». J'imagine, des fois que, si le Seigneur vous a donné, tapez un, si vous ne l'a pas donné, tapez deux. Non, elle n'est pas dans le doute raisonnable. Elle est dans une conviction, une ferme assurance. Et c'est ça qui va motiver toute son action. Alors, je reviens sur ce chapitre 1. À qui était promis ce pays? Il était promis au peuple, avec ses tribus, pas toutes, mais certaines en tout cas. Il y a quelques-unes qui avaient un caractère moral pas tout à fait à la hauteur. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe avec ce chapitre 2, avec notre sœur? C'est un élargissement des ayants droit. Intervient la notion de gentil. Alors moi, je voudrais vous poser une question. Si je demandais à tous les juifs de se lever, d'accord, donc... Bienvenue au club, vous êtes des gentils. Nous sommes des gentils. C'est-à-dire tous ceux qui n'étaient pas juifs. Cette femme est en train d'ouvrir par sa foi ce territoire qui nous appartient et qui donne du sens à notre présence aujourd'hui. Sinon, on ne serait pas là. Le cadre est sympathique, la louange était belle. On a des amitiés entre nous, mais qu'est-ce qui nous unit? L'appartenance à une famille en Christ. C'est ça. C'est ça qu'être gentil aujourd'hui et être changé par le sang de Christ. Alors, que sait-on de cette femme? Pas grand-chose. Si ce n'est qu'elle est prostituée. Il aurait pu y avoir d'autres détails. Non, c'est une prostituée. Je ne sais pas vous comment vous avez tendance à classer ces personnes, mais la société, elle, s'est chargée pour nous de le faire. Plutôt les personnes qui n'ont pas de droit. On a un petit regard positif, nous, sur les personnes qui, dans nos églises, ont un ministère à l'égard de ces femmes. Quand on parle de prostitution, on parle souvent de vendre son corps. Je voudrais qu'on se transpose aujourd'hui, mes amis. Vers qui nous prostituons-nous? Le dieu argent? Le dieu travail, le dieu gloire, le dieu possession. On a tendance à cataloguer un petit peu les choses et à imaginer, oui, c'est dans la lecture de l'Ancien Testament, mais aujourd'hui, qui a pris domination en nous? Ce texte nous interpelle aussi, et nous pouvons tous être, à notre mesure, des Rahab, mes amis. Ésaïe nous dit, au chapitre 9, le verset 1, « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. » Rahab sait. Rahab a perçu. Rahab a compris ce qui était en train de se passer. Éphésiens nous dit la même chose. J'ai simplement mis en rouge les passages qui touchent à cette nature de gentil. Autrefois, les nations dans la chair, appelées incirconcision, vous étiez en ce temps-là sans Christ, sans droit de cité en Israël, et étrangers aux alliances de la promesse, pas d'espérance, sans Dieu dans le monde. Maintenant, vous n'êtes plus étrangers ni forains. Littéralement, les migrants qu'elle accueille sont des ayants droit. Elle fait partie de ce peuple-là. Et elle a compris. Elle a compris quoi, Rahab ? Elle a compris l'essentiel de la parole de Dieu, dans sa non-connaissance pourtant. Elle a compris que Dieu avait pris possession de ce pays. Elle a compris, alors que tout le peuple est abattu, et c'est ce qu'elle est en train de dire aux espions. En fait, elle va servir Dieu aux espions. Elle est en train de leur annoncer ce qui se passe. Vous êtes venus regarder ce qui se passe ? On est dans cet état-là, mes amis. Pourquoi les gens sont abattus ? Ben, ils ont compris qu'eux, ils ne font pas partie de la promesse. Et que cette promesse concerne le peuple juif. Alors comment se fait-il que Rahab, qui fait pourtant partie de ce peuple, n'est pas abattu ? Rahab a la crainte de l'Éternel. Rahab est pleine de foi. Et voyez-vous, Rahab a compris que Dieu est derrière ce peuple depuis le début, depuis les 40 ans. C'est elle qui relate ce qui s'est passé, les hauts faits. Je fais remarquer que certains ont douté à l'intérieur du peuple d'Israël. Certains ont murmuré. Dans ce qu'elle nous relate de cette histoire, ce n'est pas des murmures. Dieu a marché devant vous, Dieu a fendu la mer. Voyez-vous, mes amis, Rahab a compris comme motivation qu'elle devait faire alliance avec ce peuple. Et c'est la foi qu'elle est en train de déterminer, qu'elle est en train de montrer une ferme assurance des choses que l'on espère. Rahab espère qu'elle va être sauvée et qu'elle va pouvoir vivre en paix avec ce peuple qui va prendre possession de la ville. Hébreux 11, 31 nous relate, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec le rebelle parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Rahab est une femme de foi. Et cette foi lui a permis d'exprimer du courage. Mais c'est parce qu'elle avait la foi. La foi, c'est quoi ? C'est d'abord un acte mental, puis un acte qui touche le cœur. La foi, c'est aussi quelque chose qui se traduit en action. Rahab a mis en scène toute une série d'actions parce qu'elle avait la foi. Et cette foi lui a donné du courage. Rahab croit au Dieu d'Israël, mais pas seulement. Pas seulement. Rahab s'identifie au peuple d'Israël. Littéralement, elle dit, « Ô Dieu, tu es mon Dieu. » Mes amis, nous sommes aujourd'hui avec les ayants droit, les Juifs, au même bénéfice de cette parole. Encore faut-il le reconnaître. Encore faut-il le proclamer. Encore faut-il l'assumer. Peut-être aurons-nous demain une croix jaune à inscrire. C'est pas des beaux moments. Et si le Seigneur tarde à venir, on ne va pas aller vers des journées d'allégresse. Autant se le dire. Je ne suis pas là pour dresser un scénario catastrophe, mais simplement pour nous avertir que le Maître que nous suivons a payé de sa vie pour que nous ayons aujourd'hui le droit d'être ici et de lui parler. Alors, qu'est-ce qui se passe ? En échange de cette prise de risque, il va y avoir pour Rahab une promesse. Et Rahab va continuer avec son acte de foi. Elle va accueillir cette promesse comme une certitude. C'est intéressante l'image de la couleur. Un accessoire rouge sang. Écarlate. Comme le sang posé sur les linteaux. Comme le manteau écarlate dont on a affublé Jésus pour se moquer de ce qu'on n'avait pas compris de sa royauté. Un signe évident qui symbolise notre foi. Je vous rappelle que sa maison est sur les remparts, à l'extérieur. C'est un gage de sécurité pour elle, un signe visible. J'aime, chez Rahab, son zèle. Vous allez voir un petit peu comment que ça se passe. Alors effectivement, c'est la préfiguration de Pâques, c'est la préfiguration de Christ pour nous. Vous imaginez si elle t'est dit, oh là là, mais la muraille est haute. Ma maison est petite. Et puis, entre nous, les espions, là, un petit bout de... C'est pas un peu léger? Vous auriez pas un signe un peu plus visible? Un peu plus grand? Non, non, non. Elle fait comme on lui a dit. Et elle croit. Et elle s'empresse. Voilà ce que lui répondent les espions au verset 18. Voici, nous allons entrer. Alors, il faut prendre ce temps, entrer par nous rentrerons, c'est-à-dire un futur proche. Ils sont en train de leur annoncer ce qui va se passer. Tu attacheras ce cordon de fil écarlate à ta fenêtre par lequel tu as fait descendre et tu rassembleras auprès de toi dans ta maison ton père, toute sa famille. Pourquoi est-ce qu'il cite toute sa famille? Parce que c'est Rahab qui, dans sa vision, a demandé le salut pour ses proches. Elle n'a pas plaidé simplement pour elle. Elle a plaidé pour toute sa famille. Et ce qu'elle a demandé, les espions sont en train de lui promettre. Quand on sera parti et quand on reviendra, tu mettras. Moi, j'aime le zèle de cette femme. Regardez au verset 21. Ils sont en train de lui dire, on va descendre. Elle leur a dit, vous allez quand même aller 3 jours dans la montagne. Et puis, vous retournerez au pays. Et après, vous allez envahir la ville. Les espions lui disent, quand on aura fait tout ça, tu mettras ton... Regardez ce qu'elle fait, elle. Et elle dit, qu'il en soit selon vos paroles. Et elle les renvoya. Et ils s'en allèrent, et elle attacha le cordon écarlate à la fenêtre. Quelle foi! Ils sont sans doute pas encore terminés d'être descendus que déjà elle est en train de mettre son écarlate. Quelle foi! Quelle foi agissante! Alors, on va s'intéresser aux espions. On pourrait dire aujourd'hui, quel voyage, mes amis! Je vous laisse quand même regarder ce que ces espions ont fait. Ils sont rentrés, ils se sont cachés, ils sont descendus, ils sont allés se planquer 3 jours dans une grotte, et ils sont rentrés à leur pays. Voilà le voyage qu'ont fait les espions. Vous pourrez me dire, un peu léger quand même. Ils n'avaient pas de drone, ils n'avaient pas Internet. Ils n'avaient rien à ramener. Dans leur voyage de retour, qu'allaient-ils dire à Josué? Et pourtant, quand ils vont rentrer, ils vont pouvoir affirmer cela à Josué. Verset 23. Et ils dirent à Josué, « Oui, l'Éternel a livré tout le pays en nos mains, et aussi tous les habitants du pays se fondent devant nous. » Leur voyage d'espionnage a marché. Plus que ce que leurs yeux pouvaient voir, plus que leur raison pouvait comprendre, ils ont été touchés par la foi de cette femme. Et ils n'ont pas douté un seul moment de ce qu'elle avait dit. Et donc de l'état dans lequel allait se trouver le pays. Jacques 2, 25, 26 nous dit, et parallèlement, Rahab aussi, la prostituée, n'a-t-elle pas été justifiée par les œuvres, ayant reçu les messagers et les ayant mis dehors par un autre chemin? Car comme le corps sans esprit est mort, ainsi aussi la foi sans les œuvres est morte. Mes amis, ces actions courageuses, inspirées par la foi, ce sont les œuvres bonnes dont parle la Bible. Pas les œuvres que j'ai choisies. pas les œuvres où j'excelle parce que j'ai un talent, pas les œuvres que je sais bien faire et où ma femme me félicite tous les jours. Arrive pas toujours, mais si, il y a quand même quelques domaines. Non, les œuvres bonnes, ces œuvres préparées dans la, par avance, fruit de la foi. Alors pour conclure, une première remarque. Regardez la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Regardez ici. Et Salmon engendra Boaz de Rahab. Cette prostituée, sans lien direct, sans lignée directe, elle rentre de plein droit dans la généalogie de Jésus. Je voudrais m'adresser aux jeunes. Très souvent, on a du mal à lire les généalogies. On aurait même tendance à passer, c'est fastidieux, tous ces noms, et il engendra, et il engendra, et il engendra. Pour le coup, la lecture de celle-ci est intéressante. Pour terminer, je voudrais que quelqu'un puisse me lire le premier verset dans Actes chapitre 29. Le premier qui l'a peut le lire. Ta Bible s'arrête ? Acte 28. Mes amis, acte 29, c'est nous. Acte 29, c'est la suite que nous allons écrire. Après les apôtres. Pour que votre nom aussi, tout comme le mien, j'en ai l'assurance, sera inscrit dans cette généalogie de Jésus. Amen. Amen. Je propose qu'on puisse prier sur la parole.